Une production, les podcasteurs.
Bienvenue dans mon podcast. Je suis Lily Barbery et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui m'inspirent. Les femmes et les hommes qui changent le monde à leur échelle, ceux qui l'interrogent et qui proposent de nouvelles voies à explorer. Chaque épisode commence par un temps très court de méditation et se poursuit par un échange. Si vous souhaitez être tenu au courant de chaque nouvel épisode et de ses coulisses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur lilybarbery.com. Et puis, si la méditation vous a plu et que vous souhaitez suivre un cours plus long avec moi, connectez-vous à lilybarbery.tv. C'est parti. Asseyez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien installez-vous en tailleur et peut-être prenez le temps de redresser la colonne. Focalisez-vous sur votre souffle sans chercher à le changer, juste regardez comment vous respirez en essayant de respirer uniquement par le nez. Rentrez chez vous, en vous, à l'intérieur d'une maison qu'on ne peut pas vous prendre. Visualisez le souffle comme votre propre territoire. Un territoire qui pourtant entre en communication avec l'extérieur en permanence. J'inspire et je sens l'air frais qui entre dans mes narines. J'expire et je sens que l'air un peu plus tiède se diffuse vers l'extérieur. Ne jugez pas votre respiration comme étant bonne ou mauvaise. Juste concentrez-vous sur l'action de respirer qui se fait malgré vous. Mais vous pouvez juste choisir, décider de ralentir le souffle. Peut-être en expirant encore plus lentement. Et puis progressivement, imaginez que des milliards de petites mains viennent masser vos neurones. Que plus vous vous concentrez sur le souffle, plus vous mettez votre cerveau au spa. Offrez-vous une pause, offrez-lui une pause. Imaginez toutes les connexions qui sont en train de se faire et votre concentration qui reste sur l'inspire et sur l'expire. Et pour s'aider, on va compter et inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5, expirer sur 3, 4, 5 et à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et inspirez. Imaginez que tout l'air est au centre de votre crâne, que vous le gardez, vous pouvez engager le périnée et par la bouche expirer. À nouveau, inspirez. Comme un grand vent frais à l'intérieur du cerveau que vous gardez et expirez par la bouche. Alors aujourd'hui, je suis hyper heureuse de retrouver Émilie Stenbach. Émilie, elle est docteure en biologie intégrative, biologie des systèmes, et elle est aussi neuroscientifique. On s'est rencontrés sur Instagram, ça c'est les rencontres magiques virtuelles, parce qu'on s'est aperçu qu'on disait la même chose à peu près au même moment. Alors moi je ne suis pas du tout scientifique, mais de façon empirique, par l'expérience, je me suis rendu compte, après avoir été 15 ans journaliste et puis ensuite avoir enseigné le yoga, que évidemment, mon comportement a un impact très fort sur la qualité de ma peau. Et donc, j'ai fait un papier il y a peu de temps que j'ai publié sur lilybarbery.com au sujet de ma peau et des comportements qui me semble fonctionner. Et bon, c'est que du bon sens, hein. Je pense qu'on est déjà conscient de ça. Mais comme toute la cosmétique et tous ceux qui vendent des compléments alimentaires et tous ceux qui proposent des solutions, souvent nous donnent l'illusion que peut-être il y aurait une solution miraculeuse, alors qu'en fait c'est un ensemble de comportements qui, ajoutés les uns aux autres, vont finir par avoir une action. Et évidemment avec certains comportements qui marchent mieux que d'autres. Et en fait, Émilie m'a contactée en me disant « Tiens, c'est amusant parce qu'en fait, moi aussi, et je pense que c'était à quelques jours près, j'ai publié un contenu en fait dans ce sens. Du coup, je me suis intéressée à ce qu'elle proposait et j'ai adoré. Et je suis allée écouter une conférence qu'elle a donnée et qu'on peut écouter dans un TEDx qui était absolument génial sur ce qu'il y a à l'intérieur de notre cerveau et comment notre comportement, notre alimentation peut avoir un impact fort sur la santé de notre cerveau. Et du coup, si notre cerveau est heureux, il va y avoir plein de conséquences absolument fabuleuses dans notre vie. Donc ça croise plein de domaines différents. On a fait un live ensemble sur Instagram. On a eu énormément de retours toutes les deux sur ce live qui vous a beaucoup plu, en tout cas pour ceux qui l'ont regardé. Et du coup, j'avais envie de prendre le temps qu'elle nous raconte un peu plus de choses sur son parcours et sur sa passion. Bonjour Émilie.
Bonjour Lily.
Alors Émilie, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, c'est-à-dire ton métier et ton cadre de recherche?
Intellectuellement, je suis passionnée par l'impact de notre mode de vie sur le cerveau. Le mode de vie, c'est l'ensemble des actions qu'on mène quotidiennement, ce qu'on mange, comment on dort, si on bouge ou pas, nos pensées, plein de choses. Ça m'intéresse parce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir dans une certaine mesure. Et cette passion m'a mené à avoir un chemin de carrière académique assez atypique. Donc ce que je fais, c'est que j'ai fait de la recherche sur le sommeil. Donc je suis neuroscientifique, j'ai fait de la recherche sur le sommeil, j'ai une formation en neuronutrition. Et puis j'ai décidé de faire un doctorat sur le microbiote intestinal. Je me suis intéressée à une pathologie qui est très complexe, l'obésité, parce qu'elle me permettait d'étudier à la fois le comportement humain, le contrôle de la prise alimentaire, l'intestin et son microbiome, la nutrition. C'est pour ça que j'ai un doctorat en biologie intégrative, c'est-à-dire que je ne me suis pas intéressée à une cellule, un gène, un récepteur, je me suis intéressée à l'intégration de l'environnement, du microbiote intestinal, de nos facteurs génétiques. Voilà.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as une vision. On emploie beaucoup le mot holistique, donc dans l'idée d'observer tout le spectre en fait qui nous environne. Dans le bien-être, en fait, c'est cette idée que il n'y a pas un individu et de l'autre côté son environnement, mais que on navigue ensemble et qu'on n'est pas juste un jeu, mais qu'on est un nous, voilà, à collaborer en fait en permanence entre tous les éléments du vivant, quoi. Et pourtant, on voit bien que dans les classifications, en fait, quand on a un problème de santé, en fait, on voit que des experts d'un domaine, mais on a du mal à imaginer que tout puisse circuler ensemble. Et donc, pour bien comprendre ce que tu viens de dire, c'est que toi, ce qui t'intéressait, c'était à la fois d'être experte dans un domaine, mais de pouvoir réunir les différents domaines autour d'une problématique comme par exemple l'obésité, c'est bien ça?
Oui, en fait, j'ai étudié les neurosciences pour de nombreuses raisons, mais j'étais assez déçue dans mes études, surtout quand j'étais en neurosciences fondamentales, de voir qu'on ne parlait jamais de l'impact du mode de vie ou même de la communication entre organes. J'étudiais le fonctionnement de neurones isolés. On apprenait les résultats d'expériences où on stimule des neurones isolés, ce qui est absolument fondamental. Mais j'avais envie de comprendre comment on peut agir pour améliorer ou prévenir la santé de notre cerveau en général, donc notre santé mentale et cognitive. Je trouve que en médecine, dans mes études, je n'aimais pas trop le fait qu'on se concentre sur des pathologies et des manières de les guérir ou de les traiter pour améliorer la qualité de vie au cours de la vie. J'avais vraiment envie d'apprendre comment on peut prévenir l'apparition de ces maladies, de troubles de santé mentale par exemple. Et ça, je pense que c'est très intéressant dans ce sens-là d'étudier le mode de vie.
Alors, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui m'a beaucoup touchée lorsque je t'ai découverte dans cette conférence que tu as proposée sur TED. Moi, j'ai une fille, je ne le cache pas, hein, qui connaît des troubles de l'apprentissage. J'ai même fait un podcast qui s'appelle « Itinéraire d'une enfant dyslexique » où j'ai raconté le calvaire par lequel passent les parents, les familles, mais aussi surtout les enfants qui vivent ces troubles comme une calamité et qui souvent sont soit mal diagnostiqués, mal orientés pour tout un tas de raisons. Hein, mais du coup, l'ayant vécu de l'intérieur, j'ai été très touchée par ton parcours scolaire. Donc, ce que je voudrais, c'est que peut-être tu me parles de ces troubles de l'apprentissage qui ont ta scolarité, parce que aujourd'hui, quand on t'écoute, on se dit que tu es brillante, que tu as fait des études incroyables, mais je crois que ça peut vraiment encourager à la fois les parents et ceux qui connaissent ces troubles d'entendre ton histoire par rapport à ta scolarité et ce que tu as vécu quand tu étais très jeune.
Mmh. Alors, ça a commencé à la scolarité.
À l'entrée à l'école, tu veux dire.
À l'entrée à l'école, ouais, tout à fait. Mais je dirais que mes troubles du comportement qui gênent les autres ne se voient pas que dans le domaine scolaire ou professionnel. Ça touche vraiment tous les milieux, tous les domaines en fait, de ma vie, comme les enfants qui souffrent de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'étais un enfant, donc j'ai une sœur jumelle identique, et mes parents aimaient bien nous comparer en utilisant une petite phrase ou une petite image mentale en disant que j'étais comme un papillon qui virevolte partout et qui court dans un champ, alors que Pauline avait la capacité de se concentrer et de réaliser un bouquet de fleurs, par exemple. Donc déjà petite, bon, évidemment, on polarise toujours les jumeaux et on les pousse vers des extrêmes comme ça. On faisait des comparaisons en disant « Émilie, elle ne tient pas en place, elle court partout. Elle a des idées farfelues, elle dit des choses que personne ne pense ou que personne n'ose dire, elle dit des choses qui gênent. » Mais quand j'étais très jeune, c'était plutôt attachant. J'ai des bons souvenirs de mon enfance, de ma petite enfance en tout cas. Et puis quand je suis arrivée à l'école, tout de suite, ça n'a pas du tout été. Et je suis toujours émue parce que c'est vraiment un sujet difficile à aborder pour moi. C'est pour ça que je pense que peu de personnes le savent. Mais dans ce cadre-ci, ça me va d'en parler avec toi. Je me sens à l'aise avec toi. C'était trop difficile, en fait, à l'école. La manière d'apprendre ne me convenait pas du tout. Et mes premiers souvenirs, c'est de passer des après-midi d'enfer avec ma maman à essayer d'apprendre à lire, devoir relire 6, 7, 8 fois la même phrase et ne pas me rendre compte qu'en fait, j'invente une partie de la phrase parce que je ne me concentre pas assez pour la lire. Et puis je gênais en cours, donc dans mes bulletins chaque semaine, on disait qu'Émilie ne tient pas en place, qu'elle dérange tout le monde, qu'elle est désinvolte, qu'elle fait exprès. Donc ça, c'était problématique. Puis en grandissant, je sais que certaines personnes dans mon entourage peuvent aussi toujours souffrir de mon trouble de l'attention et de l'hyperactivité. D'ailleurs, ça m'a posé un peu problème dans le milieu académique, surtout ici en France où on est quand même un peu plus rigide. D'ailleurs, des collègues ont tout de suite mis le doigt sur mon trouble, qui va pas très bien d'ailleurs avec une carrière académique qui est très rigoureuse et où l'erreur, on n'a pas droit à l'erreur. Mais d'un point de vue personnel, parfois j'ai du mal, même si j'ai très envie de me concentrer sur une conversation, je peux oublier d'écouter. Donc maintenant, je dois dire, excuse-moi, ça m'intéressait ce que tu me racontes, mais j'ai arrêté de t'écouter. C'est assez gênant. Voilà, plein de symptômes. Mais moi, je souffre surtout du côté impulsif. Donc le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, c'est donc inattention. Et impulsivité, hyperactivité, c'est plus le côté H. C'est pour ça qu'on écrit TDA/H, c'est avec ou sans hyperactivité. Je pense que ce qui gêne le plus mon entourage et ce qui fait que j'ai l'impression d'être parfois incapable dans cette société, c'est le côté H. J'ai 31 ans, je suis une adulte, mais aux yeux de nombreuses personnes, j'agis encore comme quelqu'un de trop jeune, de pas poli, de bizarre, de loufoque. On dit de moi que je suis fofolle.
Alors, c'est marrant parce que nous, on ne se connaît pas encore, mais tu ne me fais pas du tout cette ouais. Tu me donnes pas du tout cette impression-là. Alors, j'imagine que tu compenses par plein
je
de
me
choses.
Très fort.
Tu te retiens, etc. Mais en tout cas, tu ne donnes pas cette impression, cette première impression. Après, moi, j'ai vu que les filles, par le conditionnement à être sages et tout ce qu'on attend en fait des filles, d'être gentilles, d'être douces, elles sont très mal diagnostiquées ou en tout cas elles ont des capacités de compensation qui sont phénoménales. Je l'ai vu avec ma fille qui a quand même réussi à passer 15 ans en scolarité sans qu'on se rende compte véritablement qu'elle était dyslexique. On a juste cru qu'elle était paresseuse et qu'elle n'écoutait pas ou qu'elle faisait exprès de se tromper parce qu'on ne pouvait pas croire qu'une enfant ait la connaissance à un moment et que juste après, elle ne l'ait plus. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, en fait, elle était capable de dire très clairement ce qu'elle avait compris, mais si on lui posait la question différemment, elle était complètement perdue parce que son cerveau ne comprenait pas ce qu'on lui demandait, alors que l'information, elle l'avait à un endroit. Et ça, nous, on en est venu à douter beaucoup, en fait, de ses compétences, ce qui est terrible, en fait, parce que finalement, on était convaincus qu'elle était intelligente. On nous a tellement mis dans la tête des idées qui étaient en rien en lien avec ses capacités qu'elle-même a fini par croire, mais vraiment par se convaincre qu'elle était débile. Et ça, c'est partagé par un nombre hallucinant d'enfants et même d'adultes qui ont été tellement marqués dans leur scolarité par ces appréciations que finalement, aujourd'hui encore, avant de prendre la parole en public, avant d'envoyer un mail, avant d'avoir une conversation même très simple sur un sujet qu'ils maîtrisent, ils ont encore ces mots de « t'es débile »,« t'es paresseuse » qui se remettent en chemin dans le cerveau et qui justement les empêchent. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'est que du coup, tu as été diagnostiquée TDAH et là, on a cru avoir trouvé une solution qui t'a aidé un temps, hein, qui était un traitement chimique en tout cas, avec le groupe de médicaments en France qu'on appelle la Ritaline, qui porte d'autres noms ailleurs, et qui t'a permis de te concentrer, puisque c'était ce qu'on attendait de toi. Mais qui finalement a eu d'autres effets en fait sur toi qui n'étaient pas très agréables. Et justement, toi, quand tu as eu envie de sortir de ce traitement, là, tu as commencé à avoir des intuitions alimentaires qui moi, m'ont vraiment interpellée.
Ouais, je rebondis sur le médicament. Donc, sans ce médicament, je n'aurais sans doute pas été capable de finir l'école ou d'avoir des amis. J'ai commencé à avoir des amis presque le jour où j'ai pris ce médicament et mes points ont changé du jour au lendemain. Je suis rentrée dans le moule de la société. Le problème, c'est qu'en effet, j'ai eu des effets secondaires extrêmement violents parfois, des insomnies, des migraines assez fortes, mais surtout des gros symptômes de sevrage. Mais en fait, je n'avais pas spécialement envie d'arrêter ce médicament. D'ailleurs, j'en avais très peur. J'ai jamais pensé...
T'avais peur d'arrêter ?
Oui, pour moi, imagine, tu n'as pas d'amis parce que clairement tu es quelqu'un de très bizarre. Je me souviens de passer parfois la cour de récréation, l'entièreté de la cour de récréation, soit avec mon prof de sciences, soit dans les toilettes enfermées. J'étais parfois harcelée à l'école parce que j'étais quand même, quelqu'un d'un peu spécial. Et puis, je me trouvais complètement débile avant de prendre le médicament. J'en étais persuadée. Et le diagnostic s'est fait bien avant qu'on fasse des tests de QI pour En fait, j'ai d'abord pris ce médicament et eu le diagnostic du TDAH très tôt. C'était vraiment très tôt. J'étais encore en école primaire.
J'sais donc c'est comment... dingue, ouais. C'était vraiment toute petite, quoi.
Oui, parce que c'était vraiment très fort.
D'accord.
C'est-à-dire que un enfant, la plupart des enfants, je viens d'une famille où j'ai été extrêmement aidée. Mes parents ont toujours été là pour moi. On faisait les devoirs ensemble. Le week-end, on travaillait ensemble. Et même ça, ça ne suffisait pas pour obtenir 20% à certains examens.
20%, c'est l'équivalent pour ceux qui... C'est genre 4 sur 20, en fait. Ouais. Voilà, parce que nous, en France, on note pas sur 100, on note en général sur 10 ou sur 20. Ouais.
Donc, quand un enfant très jeune est en échec à 8-10 ans, on essaie de trouver des solutions. Puis j'étais très anxieuse. J'ai encore aujourd'hui des cauchemars à l'école des jours où les professeurs décidaient de m'interroger en surprise en classe. J'avais jamais écouté la question, tu vois, c'était pas possible pour moi, je pense. Ce médicament m'a vraiment aidée, donc je ne pense pas que ce soit la seule solution, ni la meilleure, ni celle qui convient à tout le monde, mais je souhaite juste dire que voilà, c'était une solution quand même qui m'a aidée à arriver à accomplir certains rêves, comme de finir l'école. Mais comme j'étais une incapable, et que du jour au lendemain, j'ai eu des amis, et j'ai pu réussir à l'école. Pour moi, arrêter ce médicament, ce n'était pas du tout envisageable. Et puis, j'ai connu l'évolution du médicament, avec d'abord le médicament que je prenais deux fois par jour, puis le Concerta ou Ritalin, ça dépend des pays. Enfin, cette pilule, mais en version retard, j'ai vu à quel point ça m'aidait. Et puis, en grandissant, j'ai d'ailleurs souffert d'une stigmatisation. J'étais persuadée que je prenais un médicament parce que j'étais bête. Donc, je n'avais pas envie de prendre un autre médicament ou d'arrêter de prendre ce médicament. Et d'ailleurs, à l'époque, certains psychologues, neuropsychologues, neurologues conseillaient mes parents d'essayer de méditer. Je faisais déjà beaucoup d'activités physiques, mais en fait, moi, je m'en foutais de méditer. J'avais trouvé quelque chose de facile qui me permettait d'avoir un tout petit peu confiance en moi. Donc, j'avais pas envie de changer. Mais quand même, j'ai attrapé des intuitions alimentaires qui ont, je pense, m'ont permis de lever le pied sur les médicaments. Et j'ai pas envie de dire que c'est la solution, mais plus tard dans mes études, je me suis rendu compte que ces intuitions alimentaires pouvaient permettre d'allévier certains symptômes du TDAH. Le problème, c'est qu'il y a très peu de recherches sur les enfants en TDAH et la nutrition. Mais oui, j'ai commencé à manger très, très, très protéiné au petit déjeuner.
Donc, tu en as eu envie, en fait. C'est
parce que je vomissais.
Oui, tu parles d'intuition, ouais. En fait. C'est que d'un seul coup, il y a eu un truc qui a fait que tu t'es dit, je vais essayer ça, quoi.
Oui, manger du pain et la confiture le matin. Et en tant que scientifique, c'est bizarre pour moi de dire ça. Parce que ce n'est pas la scientifique qui parle, c'est l'enfant. Ou...
Ouais.
Je me réveillais le matin, manger du pain avec la confiture me donnait envie de vomir. Ça m'arrivait de vomir sur le chemin à l'école. Je sentais que j'étais fatiguée quand je mangeais très sucré au petit déjeuner. J'avais l'impression d'être moins bien. Mais je suis incapable d'expliquer parce que c'était dans le passé. Et puis, j'ai commencé à demander à mes parents de manger les restes des plats de la veille.
Du
saumon, de la viande, des plats qu'on va appeler salés, mais en fait qui sont riches en protéines. Et donc, ils se sont mis à préparer des quantités toujours plus grandes, laisser des Tupperware dans le frigo avec mon nom. Comme ça, on était sûr qu'Emilie avait sa viande. On m'a donné des surnoms dans la famille. Et maintenant, quand je rentre encore, mon papa laisse des Tupperware avec mes surnoms dans le, dans le frigo pour que je sois contente au petit déjeuner. Et je n'ai pas fait de lien. Et c'est seulement pendant mes études où j'ai fait un stage en neuropsychiatrie, où j'ai vu beaucoup d'enfants et surtout d'adultes qui souffraient de TDAH et qui avaient l'air de souffrir d'ailleurs plus que moi parce qu'ils n'avaient pas été diagnostiqués assez tôt. En fait, ils étaient internés là en psychiatrie. Et la neuropsychiatre, la neurologue, m'a expliqué que le régime que j'avais mis en place, c'était le régime qu'elle proposait à ses patients.
Incroyable.
Et là, j'ai décidé de changer. J'ai arrêté la psychologie parce que j'étais en stage de psychologie en neuropsychiatrie.
Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière parce que... Tu as quel âge au moment où les intuitions alimentaires arrivent?
Je dirais, c'est flou, hein, parce que ce n'était pas encore mon intérêt. Entre 13 et 16 ans, je dirais.
D'accord. Donc, en fait, c'est avant d'avoir terminé ta scolarité secondaire. Mm-hmm. Et donc, tu es installée à ce moment-là en Belgique. Et est-ce que tu commences à avoir des vocations ou une aspiration à aller dans un domaine particulier? Ou bien tu dis juste, là, le projet, c'est juste d'arriver au bout?
Alors, j'étais très malheureuse dans mon adolescence. De nouveau, ma voix tremble, je suis émue. Parce que j'ai pas parlé de ça pendant toute ma thèse. En fait, depuis le TED, TEDx, et y repenser, c'est toujours un peu un choc. Je n'ai pas pensé survivre au malheur de mon adolescence. Et donc, j'avais envie d'avoir un métier qui donne un sens à ma vie. Donc, pour moi, c'était soit m'occuper des autres en étant médecin, soit m'occuper de la planète en étant bio-ingénieur. Mais clairement, les professeurs m'ont dit que je n'avais aucune chance. On m'a plusieurs fois conseillé d'arrêter l'école. J'ai vraiment été très très fort aidée par mes parents pour finir ma scolarité et par très aidée.
Oui, elle s'est impliquée totalement. Tu m'as raconté, oui. on va pas le dévoiler ici, mais vraiment elle s'est... c'est une mère courage
dit,
qui a vraiment été à fond dedans.
Je lui ai dit
dedans.
Après le live, ah oui, j'ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, mais t'es complètement folle. Je lui ai dit, oui maman, moi aussi j'ai encore des cauchemars qu'on vienne... Et j'ai des cauchemars où des professeurs viennent me voir maintenant à 31 ans en disant, mais enfin Émilie, on lui enlève son doctorat, ses masters. Elle revient à l'école parce que, voilà, elle n'est pas la seule source de son travail à l'école. Bref, donc j'avais envie de faire un métier qui donnerait un sens à ma vie. J'avais commencé à questionner les personnes dans ma rue, les arrêter, leur demander de répondre à des questions, dire qu'est-ce qui donne sens à leur vie, quelle est la plus grande
souffrance. C'est vrai, tu demandais ça dans la rue. Oh,
j'avais
c'est
un
tellement
petit
joli.
Oui, je l'ai retrouvé. J'avais un petit livre où je demandais présente-toi. Donc, je suis par exemple Lily, maman. Je demandais quelle est la plus grande souffrance que tu aies vécue dans ta vie.
Et les gens te répondaient?
Oui, quand un enfant. J'ai commencé ça. Je pense que j'ai touché le fond entre 8 et 12 ans. Donc, au moment du diagnostic du TDAH, en fait, le diagnostic vient du fait que tout le monde ait dit « Bah, Émilie, tu as un gros problème. » Donc, entre le diagnostic et avant les tests de QI, où j'étais, voilà, une incapable. Donc, quand un enfant si jeune vient avec un livre et un petit stylo, tu vois les crayons qui ont quatre couleurs, j'avais pris ce crayon, vous savez, personne ne pouvait choisir la couleur avec laquelle elle écrive, et te demande de répondre à ces questions, c'est tellement touchant que tu le fais. Donc l'autre question, c'était la plus grande souffrance que tu as vécue dans ta vie, et comment tu as fait pour la surpasser. Ça m'a intéressé beaucoup, puisque j'étais au fond du trou. C'est quand même, je pense et j'espère, rare, moi c'est peut-être de moins en moins rare, d'être au fond du trou entre 8 et 12 ans. Et puis je demandais, quel est le bonheur pour vous? Et si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui ne va pas bien, qui est malheureux, quel est votre meilleur conseil? Voilà, donc j'étais très intéressée par le cerveau, mais je ne savais pas que ça existait des études de neurosciences.
On t'avait mis une barre sur tout ce qui était médecine et bio-ingénierie.
Oui.
Donc,
je cherchais le sens. Donc,
oui, tu voulais. Ouais. Donc, du coup, en fait, ce qui a été possible, c'était d'aller vers des études de psycho. C'était une des voies possibles. Et alors là, moi, ça m'a complètement épatée. C'est que de psycho, t'as réussi à te réintroduire exactement là, dans le domaine qui t'intéressait, en l'occurrence les neurosciences, en passant par un chemin vraiment très, très dérivé, très décalé. Oui. Quoi.
Ça a été un peu un boulet pour moi, parce que commencer avec psycho, je n'aime pas quand les gens disent que c'est une science molle, je trouve que c'est complètement con.
Ah non, mais moi, si je pouvais reprendre des études, je ferais psycho. Mais ce que je veux dire, c'est que de ça aux neurosciences...
Mais après, repasser dans les neurosciences, c'est de la biologie pure, de la physique, de la chimie. Que je me souviens, en plus, c'était en anglais, dans une université à Londres. Quand j'ai dit à mes parents, en fait, j'ai fait un... Donc, on m'a dit, tu n'iras... Bon, les professeurs m'ont dit, tu n'iras pas à l'université, tu ne finiras pas à l'école. Donc finalement, je n'ai même pas été à l'université, j'ai été en haute école en psychologie. J'ai adoré, je pense que j'ai peut-être plus appris en psycho que dans d'autres diplômes. C'est vraiment une formation où on sent que notre vie peut donner du sens ou aider d'autres à se sentir mieux. Et puis j'ai changé vers neuropsy. Là, mes parents m'avaient dit, qui ont toujours cru en moi, mais quand même, attention, Émilie, tu vas te recasser la gueule. Ils n'avaient pas envie que ça n'aille pas. Puis j'ai réussi, donc pleurs, fêtes, parce que quand Émilie réussit à la maison, et parfois je pense que c'est pas cool pour mes sœurs, parce que voilà, on va...
On te célèbre plus que les autres.
On célèbre, mais oui, parce que c'était pas vraiment attendu. Puis j'ai fait ce premier master en neurosciences cognitives, et j'ai des photos de moi quand on m'annonce que j'ai réussi super bien, parce que j'ai depuis que je suis à l'université, j'ai réussi très très bien. Bah, toute la famille pleure, quoi. Enfin, mes deux parents sont derrière et moi, je suis rouge, pleine de larmes. Et là, je leur ai dit, bon, je vous ai pas dit, mais je vais faire un deuxième master dans une des meilleures universités au monde, en neurosciences fondamentales. C'est en anglais, en plus. Bon, mon premier master était aussi en anglais. Et là, je les ai vus, genre, c'est pas possible, notre pauvre bébé, il va se casser la gueule. Les premiers cours, je me suis dit, waouh.
Je vais pas y arriver.
Je vais pas y arriver, ouais. Et du coup, je le payais moi-même, ce master. J'avais payé en 3 fois pour être sûre que si je me casse la gueule, au moins je ne perde pas trop d'argent. Et finalement, ça a été... Bref, je ne sais plus, tu vois pourquoi je te dis tout ça.
Si, parce que finalement, en fait, tu as quand même réussi à rebondir. Et de fil en aiguille, tu t'es retrouvée à faire aujourd'hui le métier qui permet... à la fois d'être au service des autres, mais de réparer peut-être la petite fille que tu as été, puisque tu trouves des solutions en partageant en fait sur les comportements, parce que tous les jours tu partages sur Instagram et tu partages aussi à travers ce que tu as créé, des conférences, etc. Tu viens éveiller, vulgariser la science pour que en fait on prenne conscience de tout ce qu'on peut faire au quotidien qui est à notre service et qui peut changer la vie. Moi, par exemple, je n'arrive pas à convaincre ma fille d'avoir un petit déjeuner protéiné. Pour le moment, ça n'est pas possible. Mais j'ai quand même partagé l'information avec elle. Et peut-être qu'un jour, à un moment où elle aura envie d'être un peu plus soutenue par son propre comportement, elle aura la maturité peut-être pour l'essayer, faire la tentative, tu vois, explorer. Et je trouve ça génial de le savoir. Parce que... Enfin, ça change tout, en fait. Donc, je trouve que ton message, il donne beaucoup d'espoir. Moi, en tant que maman, mais bon, ça fait un moment que, de toute façon, j'ai récupéré tout l'espoir. J'ai hyper confiance en ma fille. Mais ça donne de l'espoir à tous ceux, je pense, qui soit ont connu des troubles du comportement, enfin, de l'apprentissage, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont vastes. Soit qui en ont toujours en fait et qui se sentent un peu à part au travail dans leur manière d'aborder les choses. Moi, je pense que c'est vraiment touchant quoi.
Merci.
Alors moi je voudrais profiter de tes connaissances pour parler justement des comportements qui favorisent la bonne santé du cerveau. J'ai adoré comment, dans cette conférence, tu parles de quoi le cerveau est fait. Et c'est vrai qu'une fois qu'on comprend de quoi il est fait, si on ouvre la boîte crânienne et qu'on pose là une espèce de masse, là, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, Émilie?
Alors, cette vidéo, t'as dit que je l'ai fait avant de commencer mon doctorat. Et quand je la regarde aujourd'hui...
Tu la trouves imprécise?
Oui, c'est ça. En fait... Je ne la trouve pas très scientifique, je la trouve plus personnelle que scientifique. Et je me dis, cette espèce de comparaison entre le contenu d'une assiette et un cerveau, elle est quand même farfelue. Mais bon, je n'avais pas encore peut-être la méthode scientifique. En fait, par le début de cette vidéo, je voulais donc faire le parallèle entre le contenu d'une assiette et le cerveau, parce que trop souvent, des personnes étaient très étonnées quand je disais qu'il y a un lien entre ce que l'on mange et notre santé mentale et cognitive. Et c'était l'accroche que j'avais trouvée pour ce début de TEDx. Donc, par exemple, j'expliquais que le carburant de choix principal du cerveau, c'est le glucose. Le cerveau carbure au glucose. Et que le cerveau, il aime des taux de glucose qui lui arrivent un peu, enfin, de carburant en fait, qui lui arrivent de manière stable. Il n'aime pas les pics et les rechutes, ce qui peut affecter les performances cognitives ou l'humeur.
Donc il n'aime pas quand l'indice glycémique varie et monte très haut puis redescend très bas.
En fait, quand tu as une augmentation très rapide de la glycémie, je tiens juste à faire un petit disclaimer, parce que je vois sur les réseaux sociaux que de plus en plus on donne l'impression que tous nos maux sont dus à un problème de régulation de la glycémie et que même chez des gens normaux, avoir des pics et des rechutes, c'est pathologique. Je tiens à dire que ce n'est pas le cas et que ces pics et rechutes ne correspondent en rien à un diabète de type 2 ou type 1.
Merci, merci Émilie.
Et qu'avoir des pics de temps en temps, en fait, c'est normal, c'est une réponse physiologique tout à fait normale. Quand une personne qui souffre de diabète, le problème va être que le pic ne redescend pas et qu'il reste très élevé, par exemple, encore 2 heures après le repas. Ou que la glycémie descend à un niveau tellement bas que c'est dangereux pour notre santé. On peut faire un malaise, ou pire. Pour les diabètes de type 2 ou type 1. Je suis très floue ici, mais c'est juste pour dire que j'ai déjà mis des capteurs de glucose. Oui, si je bois une bière, ma glycémie monte très haut et diminue. C'est pas optimal, ce n'est pas grave non plus. Bon, voilà, je voulais juste faire ce petit disclaimer.
Merci.
Et s'intéresser uniquement à sa glycémie, c'est extrêmement réductionniste. Mais ouais. Donc, si au petit déjeuner, j'ai ma glycémie qui monte très fort et puis qui va rediminuer assez vite, je peux avoir une légère hypoglycémie réactionnelle. Et à la suite de cet événement, je peux avoir des fonctions cognitives qui sont altérées par rapport à un petit déjeuner qui me permettrait d'avoir une glycémie plutôt stable. Parce que mon cerveau va permettre de mieux carburer. Aussi, quand on est en rechute de glycémie, je vulgarise très fort, et qu'on est en légère hypoglycémie, ou que notre taux de glucose est un peu plus bas, on peut avoir des sentiments qui vont promouvoir la survie, comme du stress. On peut aussi donc avoir faim, on peut se sentir plus irritable, plus énervé. Et donc, ça peut être intéressant de regarder les associations entre sa glycémie et ses performances cognitives ou sa santé mentale. Donc ça, j'en parlais dans le TEDx. Puis je parlais aussi des protéines, parce que les protéines sont souvent réduites à leur seule fonction pour avoir des beaux cheveux, des beaux ongles et des beaux muscles, alors qu'en fait, les protéines font bien plus que ça. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était les protéines, la modulation de l'apport des protéines pour permettre d'adapter la synthèse de certains neurotransmetteurs, et ça c'est ce que j'ai fait avec mon petit déjeuner très protéiné le matin avant d'aller à l'école. Donc j'avais une glycémie assez stable parce que je mangeais des glucides très complexes, très riches en fibres et riches en protéines. Je vais donner des exemples pas trop perchés que tout le monde pourrait comprendre, mais c'est par exemple prendre un pain type pumpernickel ou un pain qui est plein de graines, de farine intégrale avec par-dessus, je sais pas, un beurre de oléagineux versus un pain blanc. Donc la première option, donc un pain blanc de farine T45, j'exagère un peu, mais très très blanche. La deuxième option apporte aussi des fibres avec les glucides, et donc le pain complet, quoi. Donc ça permet d'avoir une meilleure glycémie. Donc moi j'avais aussi un apport très important de protéines, et en fait un apport très important de protéines avec une glycémie bien régulée peut permettre, et ça c'est des études qui ont été menées surtout à Harvard au début, par les professeurs Wirtman, c'est un couple, et qui ont montré qu'en fait avoir un petit déjeuner avec un apport d'environ 40% de protéines ou plus peut permettre de booster la synthèse de neurotransmetteurs tels que la noradrénaline et la dopamine. Et c'est justement des neurotransmetteurs dont le circuit est en quelque sorte altéré dans le trouble de l'attention et l'hyperactivité. Donc je faisais ce parallèle-là, et puis j'expliquais aussi que le cerveau était très très gras, et que par exemple, l'apport en acides gras oméga-3 essentiels, EPA, DHA, est fondamental à certains moments du développement du cerveau dans la vie. Par exemple, lors du développement intra-utéro, lors de l'adolescence, si l'apport nutritionnel d'acides gras oméga-3 n'est pas optimal, ça peut avoir des conséquences sur la santé mentale de la maman et de l'enfant, mais aussi sur les performances cognitives. Voilà.
Donc moi, par exemple, j'ai une fille qui ne mange absolument pas de poisson et je la pousse à prendre une gélule d'oméga-3 chaque jour. Donc elle a toujours l'impression que je cherche à l'empoisonner. Mais on est bien d'accord que ça peut faire partie des éléments qui peuvent faire du bien au cerveau.
Alors, quand on parle de compléments alimentaires, de nouveau, je suis obligée de faire un disclaimer. Les compléments alimentaires se prennent toujours en informant son médecin. Et pour les acides gras oméga-3, alors les études ne disent jamais oui, c'est très très bon ou non, c'est mauvais. Il y a des consensus pour quelques composés, mais les oméga-3 semblent être intéressants, oui, pour la santé mentale, la santé cognitive. Surtout, par exemple, à l'adolescence, pour ta fille, ça peut être intéressant quand l'apport nutritionnel n'est pas optimal. Donc ça peut être intéressant. Faire attention de prendre une formule qui est bien, qui ne va pas être dégradée avec le temps ou oxydée. Tu peux demander conseil à ton médecin ou à ton pharmacien. Et quand on achète des acides gras oméga-3, il faut les laisser dans une température pas trop élevée, à l'abri de la lumière, et les consommer rapidement. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer ces acides gras oméga-3 qui traînent dans son placard depuis 3 ans, parce qu'ils pourraient être oxydés, ça pourrait être plutôt néfaste que bon pour la santé.
Finalement, moi, je me suis aperçue en regardant ton parcours qu'on n'a pas beaucoup d'informations qui croisent à la fois ce qui se passe dans le cerveau et la nutrition. Ce sont des domaines d'exploration qui sont assez nouveaux, que je trouve, moi, évidemment, passionnants. D'un côté, on a souvent des études nutritionnelles qui parfois sont comme des modes, hein, avec des tendances, où on va te dire qu'il faut exclure un aliment ou bien en amener un de nouveau. Je vois par exemple, tu vois, la folie du kale aux États-Unis qui n'a pas trop pris en France parce qu'on a d'autres plantes vertes et légumes verts à se mettre sous la dent avant le kale. Mais il y a eu un moment, en fait, aux États-Unis, c'était complètement délirant. En Californie, il y avait des jus au kale partout, des pastilles au kale, des pains au kale. Enfin, on en mettait à tout, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des modes avec un aliment qui est mis en avant, mais pas forcément de lien sur... véritablement la santé globale, en fait. Donc toi, dans ta manière d'aborder en fait ces deux domaines, où on a les neuroscientifiques qui parlent uniquement du cerveau et qui s'intéressent pas du tout à ce qui se passe dans la digestion, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de sujet d'étude, parce que je crois que c'est ton sujet de thèse en plus.
Oui, le microbiote intestinal, c'est mon sujet de thèse. Alors je dois te dire qu'au début, j'ai choisi le microbiote intestinal de manière très opportuniste. Ça m'intéressait pas tellement. Je comprenais pas pourquoi il y avait une telle mode autour du microbiote intestinal ou du deuxième cerveau. Mais c'était intéressant pour étudier l'intégration entre mode de vie et biologie de l'hôte. Et en plus, quand j'avais fait mes études à Londres, on m'avait proposé un doctorat justement sur les transplants fécaux. Donc
les transplants fécaux, c'est quelqu'un vient se faire greffer un tout petit peu d'excrément d'une autre personne, on
en
est d'accord.
En quelque sorte, oui, c'est ça. Ouais. En fait, on parle de transplant. On utilise le terme transplant parce que le microbiote est considéré comme un organe à part entière, tellement c'est...
Est-ce que tu peux le définir juste pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est ?
Alors, on a le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, notamment des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, qui vivent dans un environnement. Donc, on a un environnement sur notre corps qui abrite différents types de microbiote. On a un microbiote sur notre peau. Les femmes, on a un microbiote vaginal. Et quand on donne naissance à un enfant, le fait de donner naissance par voie basse, donc par le vagin ou par césarienne, peut influencer d'ailleurs le microbiote intestinal de l'enfant à venir. On a aussi le microbiote intestinal, donc qui va de la bouche jusqu'au côlon, le microbiote du tube digestif. Et le plus étudié, c'est le microbiote fécal. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile d'accès.
D'accord.
Voilà. Mais on a aussi un microbiote dans notre bouche. Moi, j'ai étudié le microbiote duodéno-jéjunal juste après l'estomac. Voilà, donc c'est l'ensemble des micro-organismes. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Il faut comprendre que toutes ces bactéries, elles remplissent des fonctions immenses. Elles ont un potentiel fonctionnel immense. Et elles sont capables de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. C'est-à-dire qu'à partir des aliments que l'on consomme, elles sont capables de dégrader certains composés, par exemple les fibres alimentaires, et à partir de ces fibres, créer des petites molécules qu'on va appeler métabolites, qui peuvent être absorbées, avoir un impact local dans l'intestin, ou être absorbées et voyager jusqu'au cerveau, par exemple.
Ça, on les voit dans le cerveau ?
Alors les métabolites qui sont produits par le microbiote intestinal, ils peuvent se balader partout dans le corps. Et par contre, les bactéries, normalement, sont censées rester dans l'intestin. Mais ce qu'on sait et ce qu'on voit, c'est que dans des cas où la perméabilité intestinale est altérée, on peut retrouver des fragments bactériens dans la circulation. On voit ça dans les prises de sang avec, par exemple, le LPS, qui est un signe qu'il y a des fragments bactériens qui se baladent dans la circulation. C'est souvent associé à une inflammation de bas grade. Ce n'est pas trop bon signe pour la santé. Et dans certains cas, on peut même retrouver des fragments bactériens dans le cerveau. Ça, c'est...
Là, on n'est pas en super bonne santé quand ça arrive, quoi.
En tout cas, dans les recherches actuelles, avoir une bonne perméabilité intestinale semble plus intéressante pour la santé.
On imagine que ce cerveau et ce microbiote ont des moyens de communiquer entre eux, que notre état mental, notre santé psychologique va impacter ce microbiote et le microbiote va lui aussi impacter du coup les connexions qui se passent dans notre cerveau. En tout cas, c'est comme ça que je me le figure. Surtout, tu m'arrêtes si je dis des grosses bêtises. Puisqu'on voit que nos comportements vont avoir un effet à la fois sur l'équilibre de ce microbiote, faire en sorte qu'il y ait plein de bactéries, mais des bonnes bactéries, celles qu'on veut, qui vont maintenir un système immunitaire fort dans notre corps, et en même temps avoir une bonne santé mentale et une bonne capacité en fait, de réflexion, de logique, etc. Est-ce que dans nos comportements, et en particulier dans l'alimentation, tu vois des choses qu'on pourrait faire et qui nous feraient du bien? J'imagine que c'est un ensemble, mais si tu devais distinguer peut-être trois conseils que tu pourrais donner qui sont un peu universels et qu'on oublie peut-être.
Oui. Alors, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, tu ne racontes pas des bêtises. Donc, le cerveau du haut communique avec le cerveau du bas, donc qui est l'intestin et son microbiote intestinal. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à imaginer cela, donc comme j'ai dit, le microbiote intestinal, il est capable de créer des petites molécules, on va dire, qui peuvent se balader dans la circulation ou avoir un impact local dans l'intestin. Et donc, par exemple, influencer la perméabilité intestinale. Dans notre intestin, on a aussi des cellules nerveuses. Donc, et on a aussi un nerf, je fais très simple, qui relie l'intestin au cerveau, le nerf vague.
Le nerf vague.
Voilà. Qui peut donc permettre une communication très rapide. Le microbiote intestinal influence le système immunitaire. Donc, il y a plein de manières par lesquelles le microbiote intestinal influence la santé mentale et cognitive. Alors, pour te donner des conseils, trois conseils. Malheureusement, je ne donne jamais de solutions magiques. Je donne des solutions qui sont oubliées et qui sont souvent considérées comme pas assez magiques et donc pas assez chouettes à mettre en pratique. Mais je pense qu'il faut les en reparler. Donc, le premier conseil, ce serait de manger une alimentation la moins transformée possible. Il y a un concept de matrice alimentaire. La matrice alimentaire, c'est la structure d'un aliment, sa composition très complexe, son organisation dans l'espace et sa composition d'association de plein de nutriments au sein d'un aliment, disons une pomme. Plus tu dégrades la matrice alimentaire, plus tu vas altérer, j'essaie de faire simple, ses capacités.
En fait, c'est comme si tu appauvrissais. Il y avait une richesse, en fait, organique voilà, dans cet aliment. Et si tu lui enlèves, si tu le transformes au point de le raffiner, tu ne vas plus avoir qu'un seul des composants plutôt que toute la richesse. En voilà, parfum, si je prends l'exemple en fait, du parfum, on peut fractionner une matière première. C'est-à-dire que selon le temps d'évaporation, en fait, on va arrêter la distillation à un moment ou l'extraction du parfum pour pouvoir avoir que les molécules qui arrivent le plus tôt possible. Et du coup, on va pouvoir avoir, par exemple, un patchouli qui sent pas trop le sale, qui sent pas trop vraiment qui va être vraiment un bois, mais on n'aura que le côté sous-bois et on n'aura pas le côté vraiment terpénique. Les terpènes, c'est des odeurs qui sont presque un peu camphrées. Et donc ça, c'est génial. Mais si on le fait avec l'alimentation tout le temps, ben, on va se retrouver avec moins de richesse potentiellement à l'intérieur, c'est ça ?
Il faut se dire que la somme des aliments et la somme des nutriments dans un aliment et leur organisation dans l'espace permet à tous ces nutriments d'agir d'une certaine manière, en synergie. Ils sont mieux absorbés, leur fonction est optimisée. Alors que si tu prends tous ces nutriments de manière isolée, par exemple avec des compléments alimentaires, ou même un aliment ultra transformé dans lequel on a réinjecté des nutriments, ils n'agissent pas de la même manière. Dans l'alimentation vraie, on sait qu'il y a à peu près, maintenant on a identifié 27 000 différents composés bioactifs. Et en science, en nutrition, on n'en étudie que 150. On ne connaît les fonctions que de 150. Donc là, voilà, le premier conseil, c'est de manger le moins transformé possible pour permettre à tous ces nutriments et ces molécules qu'on ne connaît pas de pouvoir déjà être apportés à notre organisme, d'agir en synergie. Ça me mène à un autre conseil, c'est de manger le plus varié et diversifié possible pour avoir un ensemble très important de nutriments, d'associations différentes. Donc, je donne des petits conseils comme pour les enfants, mais par exemple, manger de toutes les couleurs du monde du règne végétal. Ou se dire, chaque semaine, je vais essayer de manger 30 aliments d'origine végétale différents. C'est possible en mangeant beaucoup de légumes, des légumes à feuilles vertes comme le kale, mais pas que, parce qu'on a envie d'avoir plein de nutriments différents.
Et ça peut être juste une petite touche.
Oui, c'est des
touches. Par exemple, là en ce moment, on ne va pas trouver beaucoup de rouge parce que ce n'est pas trop la saison des poivrons et des tomates. Mais ça peut peut-être être une petite tomate séchée coupée en morceaux. Ça peut être un peu de piment à un endroit.
Faire des feux d'artifice dans son assiette, je dirais.
Alors moi, j'ai un programme sur ma plateforme qui s'appelle Clean and Boost. Et tout ce que tu es en train de dire, c'était ce que je proposais. Ouais. Parce que d'abord, je trouve que c'est très joyeux d'avoir une assiette très colorée et de varier les couleurs. Et on retrouve ça dans plein de médecines traditionnelles. Par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, la Ayurveda. On va essayer de retrouver les cinq couleurs, les cinq saveurs. Tu vois que ça peut être une épice qui va apporter justement une nouvelle saveur. Et quand tu parles des 30 aliments d'origine végétale, parfois c'est juste un tout petit peu d'échalote avec quelque chose d'autre, quoi.
Exact, donc c'est par exemple créer une assiette avec des légumineuses, disons des pois chiches, des céréales ou des pseudo-céréales, disons du quinoa. On va ajouter des morceaux de légumes et des feuilles de kale. On peut ajouter quelques graines germées. On peut ajouter des herbes fraîches ou séchées, comme du coriandre, de la menthe. J'adore ces associations. Tu peux mettre des épices.
Ça devient un peu ta base pour que au moment où tu vas manger un truc ultra transformé, parce que la vie elle sera pas que dans cette assiette colorée idéale dont on vient de parler, et ben tu puisses avoir un socle solide, c'est ça?
Oui. Donc, il faut imaginer que manger de la diversité favorise la diversité dans notre microbiote intestinal. Un des paramètres qui est maintenant bien reconnu comme un signe de bonne santé du microbiome intestinal est d'avoir une très belle diversité ou richesse. C'est-à-dire beaucoup de bactéries différentes, plein de copines différentes, pas que des Émilie, ou que des Lily, non, plein de copines, qui savent remplir plein de fonctions différentes. Donc, manger le plus varié et diversifié possible est toujours mieux. Donc, même si vous adorez le kale, le quinoa et les blueberries,
Les myrtilles,
parce que vous avez vu sur Internet que c'était vraiment bon pour votre santé, en fait, ce n'est pas suffisant. Donc, vraiment, essayez tous les jours de découvrir des nouveaux aliments. Si vous allez chercher un Pokéball, testez la nouvelle association. Essayer de manger des topinambours.
Des légumes qui poussent dans la terre, d'autres qui poussent en dehors. Voilà. Mm-hmm. Bon, moi, j'avais quand même une question sur les compléments alimentaires, mais j'imagine qu'elle est vraiment tellement vaste. Donc, comme je te le disais, je prends moi des oméga-3, je prends du magnésium et de la vitamine D. Je ne veux pas du tout faire de publicité pour ça, parce qu'évidemment, je suis comme toi. Je recommande toujours qu'une personne ait fait un bilan et ait vu. Mais moi, je me suis aperçue que quand je prends du magnésium, je me sens en plus grande forme. Est-ce qu'il y a certains compléments alimentaires que tu recommandes, ou finalement, tu dis que si on a une alimentation variée, et qu'on mange un petit peu de tout, on va réussir à avoir les apports dont on a besoin?
Alors, ta question m'a plu parce que ce matin, j'ai fait un tournage justement d'un mini documentaire sur les compléments alimentaires. Et en me préparant hier, j'ai appelé une copine, Angélique, si jamais elle écoute ce podcast, elle sourira, en lui disant voilà ce que j'ai prévu de raconter. Et elle m'a dit, ok Émilie, mais en fait, pas tout le monde a un doctorat et des connaissances comme toi. Et je pense que très peu de gens mangent comme toi. Parce que j'expliquais que avec une alimentation type régime méditerranéen traditionnel, variée, diversifiée, locale, de saison,
t'as besoin de
principalement
rien.
D'origine végétale, je n'exclus pas les protéines animales, hein, mais c'est principalement d'origine végétale, il y a très peu de risques, voire pas du tout d'avoir de carences si on est en bonne santé. Alors il y a quand même certaines situations dans lesquelles il est très bien reconnu que des compléments alimentaires peuvent permettre de réellement améliorer la santé, voire même d'éviter des risques. Il y a les B9 qui est prescrite aux femmes qui ont un projet de grossesse et dans le premier trimestre de grossesse pour prévenir des malformations congénitales. Il y a la vitamine D. Là, on est dans un enregistrement de studio de podcast. Les personnes qui travaillent avec nous, qui passent leur journée dans un studio...
Devraient prendre de la vitamine D.
Voilà, on travaille plus dehors, à labourer les terres, exposer au soleil. Donc, c'est assez difficile d'avoir suffisamment d'ensoleillement pour synthétiser suffisamment de vitamine D. Donc, la plupart des personnes... donc, je recommande à tout le monde de faire des prises de sang, d'aller voir son médecin une fois par an et tester, par exemple, son niveau de vitamine D et d'autres nutriments. Mais la vitamine D doit être prise pour la plupart des gens en hiver. C'est intéressant d'aller voir le médecin parce qu'il va vous prescrire une dose personnalisée en fonction de vos besoins. Ensuite, il y a le fer et la vitamine B12 qui peuvent être recommandés pour certaines personnes.
En particulier ceux qui ont arrêté de manger de la viande.
Ceux qui ont arrêté de manger de la viande, mais pas toujours. Par exemple, moi, je donne un exemple personnel, même si on s'en fout de mon exemple personnel, mais je mange quasiment pas de viande. J'ai des taux de ferritine extraordinaires. Mais je mange, et en fait, c'est ce qu'on observe souvent. Les personnes qui ont un régime type végétarien ou presque végétarien, en fait, sont souvent des personnes qui font attention à leur santé, qui s'informent beaucoup. Et en fait, c'est faux de dire que les régimes végétariens... Certaines personnes vont dire oui, un régime végétarien, c'est riche en aliments transformés. Ils imaginent qu'on mange que du riz blanc et je sais pas, et des courgettes. Non, souvent, les végétariens mangent des légumineuses associées avec plein de choses. Donc, pas toujours. Les personnes à risque, c'est surtout les personnes qui perdent régulièrement du sang. Donc, typiquement, les femmes qui ont des
de
menstruations assez abondantes. Mmh. Et une carence en fer peut avoir des réels impacts sur notre santé, surtout aussi sur notre santé cognitive, peuvent réellement altérer l'humeur. Par exemple, quand tu souffres de troubles de l'attention et de l'hyperactivité et qu'on te prescrit un médicament comme celui qui m'avait été prescrit, les médecins vérifient si c'est un bon médecin. Dans mon cas, c'était le cas. Les taux de zinc et de fer, parce que ce sont des cofacteurs de la synthèse de dopamine et de noradrénaline. Donc, c'est comme si tu prends un antidépresseur, mais que tu as une carence en certaines vitamines du groupe B. Ben en fait, l'effet de l'antidépresseur ne va pas fonctionner aussi bien que ce qu'on voudrait parce qu'on manque de cofacteurs en cas de carence. Voilà. Les acides gras oméga-3, je pense que beaucoup de personnes ne consomment malheureusement pas assez de petits poissons gras d'algues. Donc, ça peut être intéressant de supplémenter l'alimentation. Et alors, pour certaines personnes, des associations de différentes vitamines, dedans je mets les oméga-3 par exemple, c'est surtout pour les personnes qui ont un régime végétarien, surtout végétalien, des personnes qui ont un régime ultra transformé, plein de calories vides et qui typiquement vont avoir un excès calorique et paradoxalement des carences parce qu'elles mangent des calories vides. Donc ces personnes pourraient bénéficier d'un complément alimentaire. Évidemment, idéalement, on ajoute des gros changements du mode de vie pour permettre de résoudre la carence avec les compléments alimentaires et puis de ne plus en avoir besoin. Cependant, je sais que dans notre société, c'est difficile. Là, je suis revenue à Paris depuis 2 jours. Je suis déjà agitée, stressée, je cours partout. Je n'ai pas cuisiné une seule fois. Et donc voilà, on peut voir des carences, par exemple, s'installer pour le magnésium, comme tu as dit, qui peut supporter dans des situations de stress.
Merci beaucoup, Émilie. J'avais envie qu'on parle aussi de l'impact de la méditation et de l'impact de l'activité physique. On va manquer un peu de temps pour cette fois, mais ce que je recommande à toutes les personnes qui ont été intéressées par ton partage, c'est de te suivre sur Instagram et ailleurs dès que tu proposes des choses, parce que c'est très instructif et surtout, ça fait du bien. À une époque où tout le monde prend la parole en fait sur des sujets de santé, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, en passant par des gens qui ont un domaine d'expertise mais qui est assez niche et qui d'un seul coup vont donner des conseils en fait sur tout le reste. Quand toi tu partages surtout des études scientifiques et d'ailleurs tu regardes même comment sont menées les études, par qui elles ont été commandées, parce que bien souvent des études sont aussi commandées par des laboratoires qui ont tout intérêt en fait à promouvoir un ingrédient en particulier, et du coup on va essayer, c'est pas de mentir, mais on va essayer de privilégier un résultat dans un sens plutôt qu'un autre. Donc ça, tu viens aussi de débunker ce genre d'infos.
Ouais.
Donc merci beaucoup pour tout ton travail.
Avec
et tout
plaisir.
Ça, en plus, c'est gratuit sur Instagram, donc profitez-en.
Merci de m'avoir
merci
invité.
Beaucoup, Émilie. Merci
pour la méditation.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous ? Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui ?